Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans des articles d'Africa Press du 5 mai 2025. L'objectif, c'est de décortiquer un peu deux situations assez lourdes sur le continent.
Oui, bonjour. On va regarder de plus près des réalités humaines, des fois un peu cachées, hein. Les difficultés sur certaines routes migratoires, d'un côté.
Et de l'autre, l'impact de l'exploitation des ressources.
Exactement. Sur les communautés locales. Ce sont des sujets qui montrent des tensions profondes, quoi.
Bon, alors allons-y. Commençons par cette première info assez choquante qui nous vient de Johannesburg.
Oui.
On parle de 44 migrants éthiopiens, et il y avait des mineurs parmi eux, retrouvés dans des conditions vraiment difficiles.
Et ce n'est pas un cas isolé, apparemment, hein ?
Non, c'est ça le truc. L'article dit que 20 autres ont été secourus en janvier, et 90 l'année d'avant. Ça a l'air assez récurrent, en fait.
Tout à fait. Et ce que ça montre, surtout, c'est l'existence de cette route migratoire du Sud.
Ah oui ?
Oui, entre la Corne de l'Afrique et l'Afrique du Sud. On en parle beaucoup moins que des routes vers l'Europe, c'est sûr.
Clairement moins médiatisée.
Mais elle est loin d'être secondaire. L'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations, a compté presque 80 000 mouvements rien qu'en 2023.
80 000 c'est énorme.
Ah oui, c'est considérable.
Et une route dangereuse, imagine. L'article mentionne des corps retrouvés au Mozambique, en Zambie, même au Malawi.
Oui, ça fait froid dans le dos. Il y a une responsable d'ONG, Emma van der Walt, qui décrit des trucs terribles.
Quoi, par exemple ?
Bah, infligés par les passeurs, souvent, basés au Kenya, d'après elle. Elle dit, ils sont parfois enfermés dans des voitures, affamés, battus. Ah ouais. Ça peut être très violent. Ces mots exacts.
Très violent. Et même à l'arrivée, ce n'est pas fini, c'est ça ?
Non, justement. C'est là où un autre mécanisme assez pervers se met en place. Le professeur Faisal Garba l'explique bien.
Comment ça marche ?
En gros, les migrants doivent rembourser les passeurs une fois sur place. Et ils ne sont pas libres tant qu'ils n'ont pas payé.
Donc un accord qui était peut-être volontaire au départ.
Voilà, ça se transforme en piège. Une forme de servitude, en fait.
Servitude ? C'est fort comme mot. Il y a un témoignage cité d'un migrant secouru.
Oui, très poignant. Il dit « Nous n'avons pas choisi cette route. Nous sommes venus chercher une vie meilleure. Mais tout ce que nous avons trouvé, c'est la souffrance. C'est... ça laisse en voix. Ça illustre vraiment la détresse et le manque d'alternatives pour ces personnes. »
Bon, changeons de contexte, mais on reste sur des impacts humains forts. Direction le Congo-Brazzaville, le sud du pays.
Oui, là on parle d'une enquête d'une association, ARPA-DHH.
Qui cible quoi exactement ?
Les pratiques de certaines entreprises pétrolières et minières. Surtout chinoises, dans les régions du Kouilou, de Pointe-Noire, du Niari.
Et le problème principal soulevé, c'est...
C'est l'absence de consultation préalable des communautés locales. Le fameux consentement libre, informé et préalable, le CLIP.
Une norme internationale ?
Oui, bah apparemment il n'aurait pas été obtenu avant que les projets démarrent. C'est ce que dit l'association.
Et les conséquences sur place ?
Elles sont lourdes. Très lourde d'après l'enquête, environnementale et humaine. À Chiminzi et Chitondo, par exemple, une entreprise, Wingwa, est citée pour des déversements de produits chimiques toxiques.
Toxiques à quel point ?
Au point, tenez-vous bien, que ça détériorerait les toitures en tôle des maisons.
Les toitures ?
Oui, les habitants devraient les remplacer tous les 3 mois. C'est quand même fou, hein ?
Tous les 3 mois, ouais. C'est invivable. Et la santé des gens ?
Bah justement, la pollution affecte directement leur vie. Un habitant raconte... Je cite un peu un hop. Chaque soir à partir de 18h, les résidents doivent s'enfermer chez eux. S'enfermer pour éviter l'exposition à ces produits toxiques. Il ajoute même, nous vivons avec la peur d'être empoisonnés chaque jour. La peur quotidienne d'être empoisonnés. C'est terrible.
On imagine difficilement, hein.
Ces deux situations, l'une migratoire, l'autre environnementale et sociale, elles sont différentes, bien sûr.
Mais elles révèlent une vulnérabilité commune, oui.
Des personnes qui cherchent juste à améliorer leur vie ou qui vivent sur des terres convoitées pour leurs ressources.
Et qui se retrouvent prises au piège, soit de réseaux criminels, soit de l'exploitation industrielle, soit un peu de l'indifférence générale, quoi.
Et ce qui ressort aussi, c'est la difficulté de documenter et de réguler tout ça, non ?
Exactement.
Pour la route migratoire du Sud, elle est moins connue, donc peut-être plus opaque.
Moins de surveillance.
Probablement. Et pour l'exploitation au Congo, même si ça se passe au grand jour... Bah, l'application des règles, la protection réelle des gens, ça semble faire défaut. D'après ces sources en tout cas.
Il y a comme une forme d'invisibilité ou d'impunité peut-être.
C'est un peu ça, oui.
Ce qui nous amène à une réflexion finale. Ces drames humains, ils se passent souvent loin des projecteurs. Mais ils sont bien réels.
Et ils touchent beaucoup de monde.
Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est comment faire pour que ces voix, celle des migrants, celle des communautés locales, soit entendue avant, avant que l'exploitation, quelle qu'elle soit, ne s'installe durablement.
Quel mécanisme de contrôle, quelle garantie plus forte on pourrait mettre en place pour que les droits fondamentaux soient, juste respectés?
Voilà, c'est une question ouverte, mais essentielle. Une piste de réflexion à creuser. Merci de nous avoir suivis pour cette analyse rapide.
Merci.